Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral dans l'émission 100% Foot. Nous allons, Patrick et moi-même, toujours présents, débriefer l'actualité footballistique de cette semaine passée, qui a été lourde pour ne pas dire chargée, et je dirais relativement intéressante pour ne pas dire plus. Donc nous allons commencer par parler du football national avec Aubagne. Voilà, qui jouait cette semaine, également contre Saint-Brieuc en déplacement. Ils ont remporté ce match 3-1 pour la 16e journée en national. Quoi. Nous en parlions il y a quelques minutes de la prestation des Aubagnais qui était fort intéressante. On a fait une petite boutade en parlant de comparatif avec la Ligue des Champions et la Ligue 1, donc on en est loin.
Oui, c'est sûr que c'est le vendredi soir à 19h matchs. Oui. Et après, moi en général, je regarde à 21h sur Ligue 1 Plus les matchs de première division.
Ça s'enchaîne pour le match du vendredi
c'est
soir.
C'est sûr, voilà. Alors quand tu as regardé la Ligue des Champions mardi soir, mercredi soir, que tu vas regarder le championnat vendredi, samedi, dimanche, que c'est vrai que ça fait un peu de décalage.
Oui, il y a un décalage assez probant.
Mais il y a quand même, c'est quand même, ce qui est quand même, si tu regardes un peu au-delà de quelques joueurs spectaculaires,
Il y a quand même quelques individualités intéressantes.
Voilà, très bonne organisation, il y a des bons joueurs. Qui après, bon...
Il y a un travail de fond qui prend sa place dans cette équipe.
Ouais. Et en plus, Aubagne, ils ont intégré quelques jeunes d'Herbel, puisqu'ils ont fusionné.
Il
y a des petits gamins de 18 ans qui viennent d'Herbel, qui est un super centre de formation. Et tu sens qu'il y a quelques gars qui ont du foot et qui sont intéressants. Et l'équipe, en tout cas, moi, ce qui me frappe, hormis, c'est vrai que... Deux jours après, tu es au stade et tu regardes jouer Greenwood, c'est pas exactement la même chose.
Voilà,
c'est pas le même niveau de joueur où tu regardes.
Nous en reparlerons bien entendu.
Voilà, Nakliouche, Golovin, c'est quand même pas le même niveau.
Ouais.
Mais c'est une équipe costaud, très bien organisée.
Ouais, mais d'autant plus que sur cette 16e journée, cette victoire s'accompagne de points relatifs et le classement en veut pour preuve. Le SCAB est donc 5e de ce championnat avec 24 points. Et il est vrai que ils sont à un point du 4e Sochaux et 2 points du 3e Orléans, quoi. Ils sont vraiment bien positionnés en cette période et en cette fin d'année.
Voilà. Mais on n'aura pas la discussion qu'on avait eue en fin d'année dernière et qu'on aura peut-être dans l'année prochaine. Est-ce qu'ils ont intérêt à monter en Ligue 2 ou pas? Voilà, exactement.
La réponse est dans la question, Patrick.
Oui, voilà, c'est ce qui est arrivé à Martigues il y a 2 ans.
Donc c'est trop prématuré,
Et il y a un tel écart entre la Ligue 2 et le National qu'il faut te renforcer numériquement et sportivement. Et financièrement, tu te mets en danger.
D'autant plus, c'est financièrement qu'il va falloir des épaules un peu plus solides. Et l'enchaînement se fera pour la 17e journée. L'année prochaine, le 16 janvier, Aubagne recevra le fameux Paris 13 Atlético.
C'est le troisième club parisien national. C'est une équipe au costaud au milieu de tableau, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'est vrai qu'on se rappelle que Martigues était monté en Ligue 2. Tu as énormément de frais. Et pour ton stade, il faut mettre aux normes, c'est considérable.
Pour l'Âtre Tassigny, qui est le stade d'Aubagne-Herbel, c'est assez problématique, tous les travaux que ça provoquerait.
Ils avaient dû faire des travaux pour pouvoir jouer en national.
Déjà.
S'ils devaient monter en Ligue 2, ils ont plusieurs mois de travaux et plusieurs millions d'euros de frais pour l'éclairage et compagnie. Je ne parle même pas de la pelouse qui à Aubagne n'est pas extraordinaire.
Elle est assez,
médiocre.
Médiocre, le terme est bien.
Est bien choisi. Et disons que ça te coûte cher, ça te fait jouer, parce que les féminines de l'OM jouent à Martigues sur le terrain de le stade Turquin qui avait été rénové pendant 6 mois. Martigues avait dû jouer, on le rappelle, au Vélodrome. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ils sont allés jouer à Guignon,
c'est trop compliqué,
à 400 bornes.
Et c'était trop cher pour
eux. Oui, ça coûtait un bras. Et du coup, le club se retrouve en dépôt de bilan. Et il faut faire très attention. Mais c'est une très belle équipe, Aubagne, qui peut-être, peut-être, espérons, avec la fusion avec Kerbel, permet d'avoir un club formateur de jeunes extrêmement performant. Si, parce qu'on sait qu'Herbel a fourni pas mal de joueurs, alors il y en a eu à l'OM, mais il y a Kebal qui joue au Paris Football Club, qui est international algérien,
par exemple,
qui est un très bon joueur de Ligue 1.
Le transfuge qui est reparti à Nantes.
Oui, Benatar. Voilà. Alors, à Nantes, il a un peu de mal, mais l'équipe
oui,
ne tourne pas.
Oui, mais c'est un très bon élément. Donc,
ça peut
tout est relatif. Ouais.
Voilà, mais il y a des joueurs qui étaient partis. Simon Boabré, oui. Le joueur de Monaco qui a signé en Arabie Saoudite, a été formé aussi. Tu peux te dire que si tu as une équipe que tu as acquis en Ligue 2, les mecs, ils partent plus. Parce que là, ils peuvent espérer sortir et avoir une exposition. Et après,
donc c'est le but de ces joueurs et de leur agent.
Je pense que c'est le but, c'est l'objectif à terme des dirigeants d'Aubagne.
Aussi,
mais y aller doucement, parce que des fois, parce que là, cinquième, il y en a qui commencent à délirer sur on va monter, on joue la montée.
Il faut raison garder.
Voilà, voilà, il faut savoir que devant...
La construction de ce club, c'est déjà voilà, au niveau de la gestion de ce club et tout un tas de paramètres financiers qui entrent en compte.
Voilà, parce qu'on sait que dans les Bouches-du-Rhône, il y a un gros club qui fait de l'ombre à tout le monde et qui...
Paraît-il.
Oui, pas loin d'Aubagne en plus, à quelques 20 kilomètres.
Ah, je croyais que tu allais me parler de Istres, non, pardon,
non,
je plaisante.
ni de Martigues, ni de Salon de Provence, ni
effet.
D'Arles, mais de l'OM, évidemment. Évidemment, qui fait que c'est très dur d'exister à l'ombre de l'OM. Quoi.
Et
voilà. Donc c'est. Et par contre, moi je peux dire du match pour l'avoir vu, donc c'est nos confrères de BFM à Marseille. Très sérieux, équipe très bien organisée, très bien structurée. Tu sens qu'il y a un entraîneur qui dirige l'équipe et tout.
Il y a une foncière intéressante sur le travail préparatoire.
Voilà, il y a quelques jeunes de qualité, il y a des bons petits joueurs. Et c'est une équipe costaud. Effectivement, il ne faudrait pas grand-chose, peut-être un ou deux renforts avec un buteur un peu plus... Le jeune Stéphanois prêté par l'AS Saint-Étienne, Maïla, qui a 19 ans, est un joueur intéressant, mais il est en formation.
Ce sont des pépites à polir,
oui,
faut-il les conserver?
Mais un bon joueur qui met, deux, trois bons joueurs qui amèneraient, tu peux jouer la montée.
Oui.
Est-ce que c'est pas un peu tôt?
Non, c'est certainement prématuré.
Voilà, on aura l'occasion d'en reparler.
Alors, enchaînons justement, puisqu'on parlait du stade Turquan à Martigues, de nos féminines justement qui disputent leur rencontre à domicile là-bas. Et là, malheureusement, l'OM était en déplacement à Nantes pour la 10e journée des féminines et ils ont perdu 3-0 face au FC Nantes.
Voilà,
on peut parler de similitudes avec le match à domicile face au Paris Saint-Germain où il y a eu sur 20 minutes, ça a été une avalanche et une explosion, alors qu'elles ont bien, je dirais,
bien tenu.
Et puis après, sur des principes de jeu simples, elles ont cédé totalement sur ce match.
Même en 25 minutes, il a pris 3 buts. Et alors que
tu
faisais un match correct, et en deuxième mi-temps, tu n'y es pas arrivé. Après, peut-être, il te manque, mais ça, on le savait, un ou deux renforts. De meilleur niveau, même si tu as de bonnes
totalement
équipes.
Conscience.
Voilà. Pour qu'il t'aurait peut-être permis, mais après à 3-0 à la mi-temps, enfin 3-0 pas à la mi-temps, mais à même pas l'heure de jeu, c'est très très compliqué.
Ça avait fait la différence avant l'heure.
Elles ont fait la différence en fin de première mi-temps, dans les 20 dernières minutes. Et ça, c'est là que tu vois Nantes étant quatrième.
Oui, il ne faut pas l'oublier que c'est une équipe quand même du haut de tableau.
Et levant les Lyonnaises qui sont hors compétition, les deux Parisiennes PSG et PFC.
Je crois qu'il
y a Fleury,
qui est
cinquième, qui est aussi très bon niveau, qui est une très vieille équipe féminine. Et le reste, et après, la deuxième moitié, tu as les équipes qui se battent pour le maintien. L'OM est correctement placé.
En ce qui me concerne, bien entendu, c'est dans cette position du bas de milieu de tableau que ça n'a rien de remis en cause sur le classement, puisque l'OM est 9e avec 8 points, suivi par... les amis IES de notre ami Yacine, technicien
de Montpellier.
Ils sont 10e avec 7 points. Lens est 11e avec 5 points, 12e Saint-Étienne.
Voilà. Et c'est un peu les équipes avec lesquelles on va être en bagarre pour le maintien. Et notre championnat, c'est beaucoup plus celui-là. Après, en ayant pris Diacre, qui est quand même un entraîneur costaud et expérimenté, avec, je connais peu, mais les dirigeants des équipes féminines, de construire petit à petit une équipe qui s'installe en Ligue 1, qui s'installe au milieu de tableau, qui vise les premières places.
Il y a un travail préparatoire depuis quelques mois qui se met en place et j'espère qu'il va pouvoir perdurer.
Voilà, oui, on n'en est pas à viser la Ligue des Champions.
Chaque chose en son temps. Ouais.
Voilà, tranquillement, parce que, comme on disait, les Lyonnaises, n'en parlons pas, 8 Ligues des Champions, c'est pas le même niveau. Et même le PSG, là, ils ont une creux cette année où ils sont moins bons. Même s'ils nous avaient...
Elles ne nous l'ont pas montré, justement.
Ouais. En Ligue des Champions, ils ont été éliminés.
Oui,
hein.
J'ai vu ça.
Donc, voilà. Et Paris FC est qualifié pour les barrages.
Oui.
Donc, c'est quand même des équipes très costauds, avec des internationales, des filles d'expérience. Et ça demande quelques renforts supplémentaires, du temps, du travail, acquérir de l'expérience. Et ça va être ça l'objectif, petit à petit, dans 2-3 ans, on va commencer à monter une équipe qui pourra viser les 5-6 premières places.
Pour justement, voilà.
Voilà, pour l'instant, on vise
avec
le maintien.
Avec une prochaine Coupe de France qui va se dérouler, il va y avoir un tirage là, dans quelques jours. Mais bon, je dirais que l'essentiel étant le maintien dans ce championnat. Et évidemment, si on peut faire de belles choses en Coupe de France, ben, ça sera bien aussi.
Oui, parce que l'inconvénient que l'OM avait fait il y a 3 ans et tout, tu montes et tu redescends immédiatement. Parce
donc, faire l'ascenseur, ça suffit.
Le gap est énorme et chaque fois, tu repars en arrière parce que tu ne peux pas garder les meilleures joueuses et tu n'es pas attractif. Le championnat féminin de Ligue 1, il n'est pas suffisamment... Quand tu joues en Ligue 2, tu n'es pas attractif pour des joueuses de bon niveau qui ne viennent pas.
Donc la construction est en cours et n'allons pas plus vite que la musique, comme on dirait certains.
Comme on dit,
Oui, donc la prochaine journée pour l'Olympique de Marseille, nous en avons parlé, elles joueront à Montpellier le vendredi, le samedi 20 décembre pour la 11e journée. Montpellier accueillera l'Olympique de Marseille féminine.
Et ça sera un match important parce que c'est le même championnat. Un match nul serait un bon résultat parce que tu maintiendrais Montpellier à distance.
Absolument, parce que Montpellier est juste derrière nous à un point, donc avec 7 points.
S'ils nous battent, ils nous passeraient devant.
Ah oui, ça serait dommage.
Donc ça va être un match important. C'est sûr que quand tu as joué Lyon-Paris, même à Nantes, c'était évidemment...
Oui.
C'est un autre niveau.
Ce sont des gros calibres par rapport à nous pour l'instant. Voilà. Affaire à suivre. Voilà. Bon, on va attaquer, notre chère Ligue 1. Non, commençons peut-être pas la Ligue des Champions, car mardi dernier, nous avons disputé justement une rencontre face à l'Union Saint-Gilloise. Les Belges, et nous avons joué sur le stade d'Anderlecht. Et effectivement, ce résultat, ce match est quand même assez magique. Le résultat l'est d'autant plus. Cette victoire 3-2 qui nous permet de rester avec...
Disons que...
La course à la qualification au barrage.
Si tu regardes les statistiques du fameux Opta, l'organisme qui gère les statistiques, il considère que 9 points, on peut être qualifié pour les barages. Donc, c'était 11 points la saison dernière, mais il y avait beaucoup moins de matchs nuls, il y avait beaucoup plus de victoires. Donc, ça fait qu'il y a moins de points. Et effectivement, l'OM est 16e. On est bien placé.
Alors, quelques équipes à 9 points.
Il y a pas mal d'équipes. Mais on est les mieux placés. Oui. Ça, c'est un truc énorme. C'est le goal average.
Ah oui.
C'est le match contre l'Ajax 4-0 qui nous permet d'être à plus 3.
Absolument.
Alors qu'on est, les mieux placés des équipes à 9 points avec le meilleur goal average. C'est-à-dire que si tu arrives à prendre un point ou deux en deux matchs, alors, on reçoit Liverpool le 20 et quelques janvier et on va la semaine d'après à Bruges.
À Bruges,
Alors, ce n'est pas des matchs faciles. Liverpool, On va mettre des cierges à la bonne mère pour qu'il ne se refasse pas la cerise
elle,
actuellement.
Elle est toute belle, toute brillante.
Voilà, ouais, elle est toute neuve. Et parce qu'actuellement, ils ne sont pas en grande forme en championnat d'Angleterre.
C'est ce que je voulais te dire, mais voilà. Bon, ne nous fions pas aux apparences.
Oui, oui. Mais bon, disons qu'ils sont pas... ils ont quand même gagné à l'Inter Milan.
Oui.
1-0 en Ligue des Champions, ça montre quand même gagner à l'Inter Milan. Ça faisait deux ans que l'Inter n'avait pas perdu sur son terrain.
Pour une équipe un peu en dedans, oui, il est vrai oui, que la performance, c'est belle.
C'est belle. Mais en championnat d'Angleterre, ils ont un peu de mal. On a vu, hein, on va en parler 30 secondes, mais les problèmes avec Mohamed Salah, qui, à mon avis, il veut s'en aller parce qu'il veut, je pense qu'il veut l'Arabie Saoudite. Hein.
C'est ce qui, ça, c'est ce que ça fleure un départ
oui,
pour ça, probablement.
Parce que, il est venu faire une déclaration incendiaire où il a dégommé le club, il a dégommé son entraîneur. Mmh. Avec ce que j'ai fait, on me met sur le banc, c'est un scandale.
Il était probablement malvenu de faire cette
déclaration. Oui, disons que soit c'est une énorme erreur de com, soit c'est voulu, c'est pour ouvrir la porte, je veux m'en aller. Et ce qui me paraît à moi le plus probable, parce
c'est
que
ce qui semble le plus probable en effet.
Pour regarder le championnat d'Angleterre sur Canal, sur Canal Plus, je l'ai vu faire un certain nombre de matchs depuis le début d'année. Hein. C'est-à-dire que même contre le PSG en Ligue des Champions dans la saison précédente, quand ils avaient été éliminés par Paris, il avait été transparent sur les deux matchs.
Mais bon, ça reste Mohamed Salah.
Ça reste Mohamed Salah, ça reste un grand joueur, mais qui actuellement n'est pas en forme. Et puis je pense qu'il n'y a pas que, il y a aussi que dans la tête, il est... enfin, moi c'est un peu l'impression que j'ai, quoi.
Bah, qu'il ne se réveille pas face à nous quand nous disputerons cette rencontre.
Quand on les jouera en Ligue des Champions, s'ils jouent, qu'ils ne se réveillent pas.
En effet.
Mais ça ressemble quand même à une sortie provocatrice qui a été très mal vécue à Liverpool et chez les supporters.
Ce qui semble
en particulier,
légitime. Ouais.
Voilà. Ça semble vouloir dire j'ouvre la porte à un départ. Enfin, on verra bien. Espérons qu'ils ne refassent pas la cerise d'ici la fin janvier, parce qu'on va les jouer. Il serait mieux d'avoir...
Laissez-les régler leurs affaires internes.
Voilà.
Et occupons-nous de nous, justement, de la meilleure des manières pour justement aborder ce match-là.
Ouais. Voilà, là, ce qui ressort des critiques, c'est que Konaté... moi, j'ai vu les matchs. Hein, Konaté, Van Dijk, un charnier en centrale. L'année dernière, c'était monstrueux. Cette année, il multiplie les erreurs.
Ouais,
Salah, c'est
étonnant,
un fantôme. Et devant, Wirtz, il n'arrive pas à s'installer, à s'intégrer.
On n'a pas l'impression de voir les mêmes joueurs d'une année sur l'autre.
Oui, et même Isaac, qu'ils ont acheté une fortune à Newcastle, le mec, il n'arrive pas à s'insérer, il n'est même pas titulaire. Quoi. Et donc, espérons que ça reste comme ça, et que, parce que s'il retrouve le haut niveau, ça serait très très compliqué. Mais bon, ça va faire une super affiche au Vélodrome. J'en salive déjà.
Et il y a de quoi. Et évidemment, on ne va pas galvauder nos chances. Et je pense qu'on est capable, au-delà de réaliser de belles performances face à eux.
Rappelons que Newcastle, c'est quand même une très belle équipe championnat anglais qui avait fait
quatrième
l'année dernière. Ouais. Alors, on a eu... le match a bien tourné pour nous, on a gagné, mais on a fait un très bon match. D'ailleurs, pour être très honnête, dans ma lettre au Papa Noël, j'ai demandé une victoire contre Liverpool. Parce que, voilà, c'est évidemment une plaisanterie. Mais,
écoute...
voilà, parce que après, s'il faut aller chercher la qualif à Bruges...
ça serait peut-être plus délicat.
Oui, parce que Bruges est aussi avec nous dans les équipes à 7, 8, 9 points, qui eux aussi vont peut-être jouer la qualif chez eux la 8e journée contre nous. Donc ça rend des matchs compliqués, quoi.
Donc je suis solidaire avec toi au niveau du Papa Noël.
Voilà, du Papa Noël, on va espérer.
Ouais.
Mais après, on comptera plus quand même sur l'entraîneur, les joueurs pour mettre... pour faire le match, comme on a fait contre Newcastle, où on a été très bon. Et
puisque nous sommes en Ligue des Champions, c'est le cas de le dire.
Oui.
Parlons justement de cette confrontation par rapport à l'Union Saint-Gilloise, de ce match-là. Voilà, au départ de ce match, il est vrai qu'on était peut-être, en tant que spectateur, averti devant son petit écran, de voir cette défense un peu... surprenante. Je cherchais le terme adéquat.
Ouais.
Bon, ben, ils se sont pas mal débrouillés, pour ne pas dire plus. Murillo m'a agréablement surpris. C'est vrai que l'absence de Balerdi et Pavard en charnière,
avait de quoi surprendre.
En début
voilà.
de match, le rôle de piston, de Wea qui joue de l'autre côté.
C'était un peu space, mais disons que après on a très mal commencé. Et le problème,
c'est récurrent en ce moment.
Il y a deux trucs inquiétants dans ce match, c'est qu'on a mal commencé, on prend un but à la cinquième.
Oui, c'est cela.
En plus, sur une action qui avait été identifiée, on savait qu'il joue avec défense à 3 et 2 pistons, qui était des joueurs très offensifs. Et le mec qui nous a mis les deux buts, d'ailleurs, c'est le piston droit. Et on sait que le mec qui monte, il avait une jolie frappe. Mmh. Et il nous a mis deux buts, voilà. Et donc...
Et on le sentait venir, évidemment.
On était prévenus et on s'est fait piéger. On a bien repris le contrôle, on a égalisé, on a pris l'avantage, on a mené 3-1 grâce à un Greenwood de très haut niveau.
C'est Greenwood.
Voilà.
Que dire de plus.
Qui a mis deux jolis buts, voilà. Et Peck Shaw qui a mis le troisième, et Aubameyang qui a fait un très bon match. Et puis, alors qu'on avait le match en main, c'est ça le deuxième problème, on s'est arrêté. Je ne sais pas ce qui s'est
passé.
Là,
on s'est arrêté de jouer.
Voilà, on s'est arrêté de jouer, on a joué à la baballe. Eux, ils ont foncé parce qu'ils avaient l'espoir d'essayer d'arracher. Et disons qu'ils reviennent à 3-2 à un quart d'heure de la fin, et pendant un quart d'heure, tu as tremblé. Heureusement que Roulier a fait les arrêts.
Au-delà de notre immense gardien qu'il est tout autant, de ce talent qu'il possède, on peut parler non pas d'arbitrage, mais évidemment qu'il y a eu des mésaventures, comme on pourra en parler sur le match de Ligue 1 hier face à Monaco. Ouais. Mais il est vrai, voilà, les buts refusés.
Alors, vous voyez là, il y en a un, il n'y a rien à dire, il est hors jeu, c'est net.
Effectivement, puis il y a quelques interrogations, ce qui concerne
le second, où là, le hors jeu, il est millimétré. Quoi. Vous savez, c'est le talon qui dépasse et tout.
Ça se joue à quelques centimètres, même pas.
C'est le règlement. Oui. Moi, ce que je rappelle et qui m'a un peu énervé dans les commentaires télé, radio et tout. C'est qu'on oublie qu'on s'est fait enfler à Madrid avec un pénalty qui n'y était pas.
Certains médias l'ont rappelé.
Oui, l'ont rappelé quand même pas beaucoup.
Que se faire avoir, c'est ce que c'est.
À Lisbonne, on peut critiquer Emerson pour la simulation, mais le premier jaune qu'il a pris, il n'y était pas.
Il n'y était pas.
Et que c'était contre l'Atalante, on se fait voler, puisqu'il y a un pénalty.
Madrid, Atalante, là, on se fait voler comme il faut.
Alors, on a eu la réussite avec un, il est indiscutable, mais l'autre...
Oui, indiscutable, et l'autre qui se joue à quelques millimètres, voire centimètres.
C'est comme contre Monaco dimanche, il y en a une des deux, il est hors jeu, tu regardes les images, c'est très net, il est largement devant, il n'y a rien à dire.
Il n'y a pas de discussion possible.
Il y a discussion sur l'autre.
Eh oui.
Mais le règlement dit, il y a le truc, il est hors jeu, c'est de quelques centimètres, mais il est hors jeu. Ça aurait été contre nous, on était marron, c'est pour
finalement,
nous.
Que nous retrouvions un peu le sourire et que ça ne nous tombe pas dessus.
Oui, pour une fois, ça va de notre côté.
C'est exactement le terme que je voulais employer. Pour une fois, ça ne nous tombe pas
donc,
dessus.
Mais ce qui, par contre, pour moi, me pose problème...
Non, je t'en prie.
C'est que, il fait frais
c'est
le matin.
C'est le supporter qui s'exprime.
Voilà, c'est le rhume que j'ai chopé dimanche ce soir.
Ça sort du cœur, ça sort du nez, ça sort de partout.
Voilà. Et donc, c'est que on avait le match en main à 3-1, donc il y a quand même de la marge. On contrôlait, on les dominait et on s'est mis le feu tout seul.
Et voilà. S'arrêter de jouer subitement et de jouer à la baballe, nous revenons toujours à cette expression.
Et on est quand même sur un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque.
C'est l'attaque.
On aurait continué à attaquer, pas comme des fous, à tous partir à l'assaut, se prendre un contre, mais à garder le ballon devant et à jouer dans leur camp. Quand tu es dans leur camp, tu risques pas de prendre un but.
L'intelligence tactique prime avant tout geste technique. Et là, il est vrai que sans partir à l'assaut, il fallait continuer à jouer au foot.
Et c'est vrai qu'à ce moment-là, une fois qu'ils sont revenus à 2-1, on a pris les vagues. Et on a eu une impression d'une équipe qui paniquait. Ça m'a rappelé quelques matchs où on l'avait à Lisbonne.
Il y a de quoi.
À Lens, un championnat où on perd des points en fin de match ou dans les arrêts de jeu sur des ballons. Parce que.
Voilà, par le championnat, Toulouse, etc.
Oui, tu recules, tu recules. Angers, où on perd là aussi, comme contre Toulouse, on perd deux points dans les arrêts de jeu.
C'est plus qu'à Fijan,
voilà, à la 90 plus 3 ou plus 4 contre Angers. Et on panique, on n'arrive plus à garder le ballon, alors qu'on a normalement des
on
joueurs
a la maîtrise du jeu,
capables
voilà.
de le faire. Voilà. Et c'est ce truc qui est problématique, parce que si devant Liverpool, tu fais ce genre de choses, tu es en danger, parce que Liverpool, il y a du monde. Même si Salah, il n'est pas dans le coup,
oui,
même
oui,
si Wirtz, il n'est pas bon en ce moment, c'est quand même des drôles de joueurs de ballon. Et là, tu peux être puni chèrement.
Oui, parce que Rulli ne va pas nous sortir chaque fois des miracles. Ouais. Et pourtant, il en commet de plus en plus de miracles.
Oui,
on va dire ça comme ça. Ouais.
À Saint-Gilles,
oui.
dans les arrêts de jeu,
parce
il a sur une tête, il fait un arrêt à bout portant, un arrêt de gardien de Han,
comme on dit,
arrêt réflexe. Où il te sauve une égalisation à la 90 plus 3. Quoi. Voilà.
Et j'en tremble encore.
Alors, les mauvaises langues diront, mais sur les deux buts, bon, les deux buts qu'il prend, le premier, il ne peut pas grand-chose, même s'il sort au premier poteau. Et le second, il sort, il est un peu court, mais il arrive à détourner le ballon. Moi, ce qui me gêne plus, c'est pas, on me dit, Rulli, le dégagement n'est pas assez lointain. C'est que le mec qui contrôle dans la surface, il est seul.
Voilà.
Et il a fallu, j'allais dire, tu as le temps de tuer un âne à coup de figue.
Oui, notre expression, oui.
Voilà, l'expression
très
provençale,
oui.
très marseillaise. Avant qu'il y en ait un qui monte pour l'empêcher de tirer. Et Rulli, après, le mec, il le fusille, il ne peut pas faire grand-chose.
C'est là que je te dis, que font ses coéquipiers en
voilà,
défense.
Sur la sortie, il est un peu court.
Ouais.
Mais il arrive quand même à détourner le ballon. Mais tu es quand même tu es quand même en difficulté parce qu'il y a un mec qui est seul, qui récupère, qui contrôle et qui frappe.
Mais il nous sauve encore le match sur quelques actions
Sur quelques actions.
Sa part. Ouais.
Et on revient pour faire le joint avec le match de dimanche contre Monaco sur le but qui a été refusé par
l'arbitre. Parce qu'il y a beaucoup de relations
voilà.
entre les deux matchs.
Ouais. On y reviendra. Ouais. C'est un ballon dégagé un peu n'importe comment. Après. C'est un ballon aérien, le mec il dégage de la tête, il fait ce qu'il peut.
Mmh.
Voilà, il dégage comme il peut. Le ballon il est contrôlé par Camara en l'occurrence.
Ouais.
Alors Camara, je rappelle, c'est le mec qui n'aurait pas dû jouer parce qu'il aurait dû être suspendu après le tacle assassin qu'il avait fait à Chevalier, le gardien du PSG, où il aurait dû prendre en rouge pendant 3 ou 4 matchs.
On en a parlé la semaine passée, justement, de cet épisode.
C'est lui en l'occurrence, il n'aurait pas dû être là. Mais qui a fait d'ailleurs un très bon match. Hein.
Comme la plupart de ses coéquipiers,
il faut le souligner. Qui est un bon joueur et qui n'est pas un mec méchant sur Chevalier. Il ne maîtrise pas son geste, il mérite un rouge, mais ce n'est pas un tueur. Quoi, hein. C'est pas, voilà. Et donc, il n'aurait jamais dû pouvoir contrôler et frapper comme il a fait. Il a mis petit filet, il a mis une très belle frappe. Heureusement qu'il y avait ce hors-jeu de position avant.
Là, on va parler justement des relations et des rapports avec ce match face à l'Union Saint-Gilloise.
Alors, Saint-Gilles, je le redis, comme Monaco, deux buts refusés, mais il y en a un indiscutable à chaque fois. Monaco, le but de Balogun, il est hors-jeu. Tu rends les images, il est hors-jeu, il n'y a rien à dire.
J'avais pas vu Balogun jouer aussi bien depuis un petit moment.
Exactement.
Petite
D'ailleurs,
parenthèse.
Il nous a fait un gros match.
Ouais.
Et il nous a pourri le match tout le long.
Ouais.
C'est une action où, réglementairement, quand le joueur fait action de but et qu'il gêne, parce que il est hors jeu.
Très important ce que tu dis.
Oui, Haggard revient pour le couvrir. Et Minamino profite que Haggard est sur Balogun pour s'engouffrer et faire un appel. Et après, il centre. Le centre est dégagé. C'est sur le dégagement du centre que Camara frappe.
Comment peut-on expliquer justement
Quand tu prends le règlement. Alors après, c'est vrai que...
C'est une sorte de...
Une fois sur deux, le but, il est accordé.
Une
fois sur deux, il est accordé. C'est vraiment ce qu'on appelle... C'est ce que dit la direction de l'arbitrage.
Je ne dirais pas merci de Texier, parce que je ne me permettrai pas de dire cela.
Oui, non, mais le Texier, après, moi, je ne pense pas que ce soit...
Et puis la VAR qui, justement, intervient là-dessus. Ouais.
Voilà, moi, je ne pense pas que ce soit un mec malhonnête.
Non, pas du tout.
C'est un arbitre qui fait des erreurs, comme tout le monde.
Heureusement.
On se rappelle, on a une dame, parce qu'on se rappelle que contre PSG l'année passée, il avait expulsé
Aminarit
pour une action où il ne fait pas exprès, où il veut contrôler un ballon, il contrôle le ballon et Marquinhos arrive, le percute. Et donc, il touche Marquinhos à la poitrine avec le pied. Il a mis un rouge. Ouais. Et un mois après, il n'a pas expulsé Shingo, qui a mis le pied dans la tête de Donnarumma. Et qu'il, le mec, il était sorti sur Sylvien. Il avait même mis un carton jaune. Parce qu'il en avait déjà un, on l'aurait expulsé. Donc, le mec, il te dit, il a senti les joueurs. Et contre le match contre l'OM, alors, je pense que la situation de Mène à la surface, c'est une frappe de Greenwood, que c'est Zakaria, je crois, qui contre du bras, mais il monte au contre, et il a le bras, comme on dit, collé au corps. Mais enfin,
ça reste discutable.
Il le prend sur la main.
J'étais
en tribune, les collègues, ils disaient, à Madrid, on s'est pris un pénalty pour la même chose.
Oui.
Voilà. Et on n'en a pas eu un contre Madrid pour la même chose. C'était Rudiger qui avait contré du bras. Et
en effet, bon,
il n'y avait pas eu de péno.
Pas mais, à nous de se plaindre de l'arbitrage sur ce match-là.
Voilà, à mon avis, il n'y a pas péno. Parce que le mec, il monte au contre. Et voilà. Mais quand même, il y a une action. Moi, ce que je reprocherais plus à Le Texier, tout en disant qu'il n'est pas malhonnête, c'est que sur une action, sur une mi-temps, sur un contre où Pechao est lancé, il prend de vitesse. Je crois que c'est Caio Henrique, l'arrière droit de. C'est Caio Henrique, l'arrière droit, ou Vanderson, je ne me rappelle plus lequel des deux. Et le mec le plaque, alors qu'il est passé. Alors on est allé te chercher la chaîne d'Arpenteur. Oui, mais Kerrer, il est à 25 mètres.
C'est pas le dernier défenseur, il y a d'autres défenseurs.
Il est sur la même ligne. Sauf qu'il ne serait jamais revenu. Pechao est un joueur rapide.
Une action de but probable.
Voilà, une action de but probable parce que le mec, il est plus rapide donc il va passer. Et le mec, en plus, c'est pas parce qu'il y a eu une action où, dans le même match, en première mi-temps, fin de mi-temps, où Kondogbia a pris un jaune mérité.
Qui était mérité, rien à dire. Sur l'action.
Il est à la lutte avec, je crois que c'est Golovin. Non, c'est Minamino, le japonais. Il est en retard. Et l'autre, il passe devant. Alors, les mauvaises langues diront c'est un contre qui peut être dangereux, donc il tente le tacle et il coupe le mec, il prend le ballon après.
De toute manière, bon, il fallait qu'il sorte, il est sorti.
Voilà. Donc à la mi-temps, je pense qu'avec ce jaune, c'est pour ça qu'il a sorti.
C'était le moment de le faire sortir.
Voilà. Mais il fait une faute qu'on appelle intelligente, c'est-à-dire.
On peut l'employer.
Il tente le coup, mais au moins, il joue le ballon. Il essaie d'avoir le ballon.
Contrairement à Paxao qui se fait plaquer.
Qui se fait plaquer comme au rugby. Quoi. Je me croyais au match du champion de la Challenge Cup de rugby avec les Sudaf les frigos américains qui te percutent.
Là,
quoi.
C'était assez déconcertant comme action.
Et il met un jaune en disant il y a l'autre qui est sur la même ligne, mais l'autre, il est à 20 mètres. Il reviendra
serait-il
jamais.
Serait-il revenu, justement
il ne serait pas revenu.
Parce que Paxaro, c'est une de ses grandes qualités, pas le dribble, mais la vitesse.
Pas le dribble, mais la vitesse. Et il est, comme on dit, il est passé devant, il a mis le corps devant, il est devant. Et le mec ne joue pas le ballon, il le plaque. C'est un plaquage. Et là, moi, je pense que dans l'esprit du foot, c'est une faute volontaire pour annuler une action de but, c'est
bien
rouge.
Je suis totalement d'accord avec cette idée-là.
Et tu te retrouves la dernière demi-heure à 11 contre 10, et c'est pas le même match parce que ils peuvent pas avoir autant le ballon que ce qu'ils ont eu en fin de match.
C'est vrai,
ils
ça aurait mis la pression. Changer la continuité du match. Voilà.
Ce qui me gêne, c'est pas qu'on critique le but refusé à Monaco. Mm-hmm. Je le comprends. Moi, le premier, il serait contre nous, je gueulerais. Mais ce qui me gêne, c'est qu'il y a cette action douteuse. Il y a la frappe, même s'il n'y a pas péno, je le redis. Ouais. Il y a quand même une action où on dit rien. Et on ne voit les erreurs que d'un côté. Quoi. C'est ça qui est un peu... Parce qu'on crée des... Alors, je vais dire un mot qui n'a rien à voir, mais juste pour le signaler. Ouais. On t'interviewe Benzema qui te dit « Je suis prêt à revenir si on m'appelle » et on va me parler pendant 6 mois. Ouais. Attendez-vous aux pétitions, aux débats, à tout, radio, télé, journaux. Vous allez avoir des débats jusqu'à ce que le pauvre Deschamps il
finisse
sa liste. Rassure-moi,
on ne cherche pas un avant-centre pour la Coupe du Monde quand même.
À mon avis, on a trop d'attaquants. Il va falloir qu'on en sorte un ou deux des mecs qui sont
d'accord, beaucoup d'internationaux ne jouent même pas avec leur club.
Voilà.
Comme
et puis, j'aimerais bien voir les journalistes de certaines chaînes de radio ou de télé expliquer à Mbappé que pour faire la place à Benzema, il va rejouer ailier gauche. Bon courage, hein, parce que le mec, c'est pas prêt de le faire redescendre non, une seule
voilà
seconde.
Voilà encore
hein.
des polémiques qui n'ont pas
voilà,
lieu d'être.
Et oui, et en fait, on fait du buzz. Ben et en fait, si...
La communication des journaleux oui, sportifs.
Oui, oui. Et moi, je disais, le jour d'OM Union Saint-Gilloise, l'équipe de Greg donc, sur l'équipe, ils allaient en parler énormément. Il y avait la Candice Roland qui était la journaliste
qui était sur place.
Ouais. Et le même jour, à la même heure, il y avait Monaco Galatasaray à Monaco, à Louis II. Ouais. Ils n'en ont pas dit un mot. Il n'y avait personne qui était à Monaco qui est venu te dire quelque
victoire
chose.
Victoire de Monaco.
Et voilà. Et après, moi, après le match. Après le match, j'ai quitté donc Canal pour basculer sur l'équipe. Monaco, ils en ont parlé au bout d'une heure. Quoi. Ouais. Pendant une heure, ils ont débriefé l'OM à Saint-Gilles. Et après, Monaco, c'est une équipe. Galatasaray, c'est un grand club.
Ah, oui.
C'est le seul club turc qui a gagné une Coupe d'Europe, une Europa League.
Ouais, Europa League
à l'époque où Hadji, le Roumain, jouait chez eux et tout. Ils avaient une grosse équipe.
Voilà, numéro 10 de ce type qu'il nous faudrait peut-être dans notre équipe.
Ah oui, un créateur. Puis quel joueur, un peu fou, mais quel joueur de ballon. Et c'est un gros Galatasaray. Il y a Osimhen, il y a des gros joueurs.
Oh, oui.
Pas un mot. Voilà. Nantes change l'entraîneur, on en parle 3 minutes parce qu'on critique, mais après on s'en fout. Tu as des clubs qui font des trucs.
C'est vrai, Patrick.
On parle de l'OM, du PSG. Voilà.
Ben, c'est-à-dire qu'on cherche toujours cette rivalité et les mettre dos à dos.
Et on fait des débats, y avait-il but, y avait-il pas but, alors qu'il y a des fois des actions en championnat, des trucs beaucoup plus gros, beaucoup plus scandaleux. Et on n'en parle pas, quoi. Voilà. Oui. On est dans un truc de très... on cherche à créer des débats.
Oui,
là.
Toujours.
Je le dis, mais en rigolant.
Des débats polémiques qui n'ont pas lieu d'être, une
Benzema,
fois de plus.
Benzema, tu vas en bouffer jusqu'au mois de juin. Et après, tu boufferas. Fallait-il prendre Benzema ? Je ne souhaite pas à Deschamps et à l'équipe de France qu'on soit éliminé en quart ou en demi, parce que de là, tu es sûr que le lendemain, s'il avait pris Benzema, on était champion du monde.
Bah évidemment. Quoi.
Puis alors, tu as droit.
Bon, on n'en est pas là, mais évidemment.
Ah non, mais en oubliant que le mec, il a 38 ans, qu'il joue en Arabie Saoudite, qu'on sait qu'on le voit avec N'Golo Kanté, et on le voit avec Théo Hernandez qui avance pas.
Il a du mal avec son
club. Si Lucas Digne est devenu le titulaire en équipe de France, parce qu'Hernandez, il fait machin.
Ah ouais, côté gauche, il a du mal.
Ah ouais, il est en grande difficulté. Rien ne te dit que Benzema, il va casser la baraque. À la limite,
une polémique qui n'a pas lieu.
Il viendrait en remplaçant, filer un coup de main, rendre service en fin de match en gardant le ballon. Mais à part que Benzema, avec son ego, il n'acceptera pas d'être sur le banc. Et t'imagines la réaction d'Mbappé, Dembélé, Ballon d'Or et des mecs comme ça. Et qui vont.
Sans dire de bêtises, pourtant un peu, mais de toute façon, ça sera encore la faute de Deschamps.
Ça sera la faute de Deschamps. Et on crée des trucs, et nous, c'est un peu pareil.
Des polémiques qui ne devraient pas exister.
Tu polémiques sur Auxerre-Le Havre, tout le monde s'en fout. Tu polémiques sur Angers-Lorient, alors là, n'en parlons même pas. Tu polémiques sur un but de l'OM, surtout s'il est. S'il est refusé alors qu'il aurait pu être accordé. Tu as 4 heures de débat.
Par contre, pour reparler justement de ce match face à l'ASM, Monaco, que je voyais vraiment en dedans sur ces derniers matchs du championnat, je ne les voyais pas, je dirais, revenir aussi bien sur ce match-là, parce qu'ils étaient bien, ils étaient pas mal. Et même Golovin m'a surpris énormément.
Oui, parce qu'il a bien joué.
Je ne l'ai jamais vu faire des gestes aussi défensifs, de revenir, de se replacer, de donner des bons ballons. L'Américain également.
Balogun, qui a été très bon.
Et voilà, sur l'ensemble de l'équipe, ils ont été après, performants.
Moi, j'avais regardé le jeudi, j'avais vu en différé. Le jeudi, j'avais vu Monaco-Galatasaray, 1-0 pour Monaco, où Balogun, il manque ce qu'il veut, il manque deux buts tout fait, mais il est quand même là pour mettre le seul but du match après.
Oui, ça reste...
Ce qui prouve que mentalement, le mec, il est costaud. Mais j'avais trouvé Monaco une très belle équipe.
Mais ça reste une très très belle équipe.
Oui, après, il y avait Zakaria, le capitaine milieu de terrain, dont on sait que quand il n'est pas là, l'équipe de Monaco, elle tremble
elle devient
sur
bancale,
ses bases. Voilà, elle devient bancale. Mais ils ont fait un très gros match.
Oui.
Et très honnêtement, Ils auraient ramené le nul, il n'y a rien à dire. Il hein. n'y a rien à dire.
Effectivement, sur leur prestation, j'imaginais difficilement qu'on puisse... Bon, Greenwood, encore une fois, évidemment, on a eu quelques occasions fortes et intéressantes, mais c'est vrai que sur l'animation offensive, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai pas douté, mais j'ai eu quelques...
Parce que c'est vrai que...
Frémissement.
Après, disons quand même, pour être honnête, que Pierre-Emerick Aubameyang a 36 ans.
Il est cuit.
Et d'ailleurs, il est blessé. Et j'ai appris hier que...
Avant de partir...
Il était forfait pour le premier match de la CAN parce que il a un pépin physique.
Bon, il a essayé de tout donner pour son
contre
club.
Contre Monaco. Oui, il faut dire, le mec, il fait le boulot.
Pour le dernier match de l'année.
Il avait joué 80 minutes à l'Union Saint-Gilloise. Mm-hmm. Il est sorti à la 76e, je crois, s'il était bouilli.
C'est clair.
Et là, quand il sort, tu vois que Vaz, c'est un jeune de qualité, mais il est jeune, il manque d'expérience.
On en revient toujours à ce propos.
Voilà, il manque un peu de métier, il a besoin d'apprendre.
Bon, il va falloir justement que le métier rentre.
Oui, peut-être le prêter l'année prochaine en Ligue 2 pour qu'il progresse et qu'il enchaîne une trentaine de matchs, parce que c'est vraiment un joueur intéressant. Mais quand tu as une équipe costaud comme Monaco, c'est là que tu vois que le mec, il est un peu... Il est jeune, il n'a pas le sens de certaines choses. Il part du mauvais côté, il ne fait pas le bon appel.
Le Ziga au lieu du Zaga.
Voilà, il n'est pas alors que Aubameyang, c'est quand même un grand joueur.
C'est vrai que là, pour revenir justement à cette CAN, là, ils sont partis. On a deux joueurs très très importants, devant et derrière, Aubameyang et Aguerd. Il est vrai que là, ça risque au niveau offensif, par exemple, pour compenser l'absence, ça va être compliqué.
Oui, parce qu'on rappelle que normalement, il était prévu qu'Aubameyang il alterne avec Amine Gouiri avant-centre. Gouiri est quand même un joueur d'expérience, de qualité, très technique, très fort techniquement, moins rapide que Vaz, moins puissant dans les appels, mais extrêmement technique, très bon dans les remises. Et Gouiri est blessé depuis pratiquement le début de la saison, puisqu'il avait été blessé à l'épaule. Il est revenu, mais ça n'allait pas, il a fallu l'opérer. Et donc, il reviendra au mieux courant janvier.
Peut-être le verrons-nous pour le trophée des champions
Probablement pas.
Ça sera un peu short.
Voilà, d'après ce qu'on sait, lui, Medina et Ahmed Traoré Junior.
Medina, c'est une énigme.
Voilà. Et Medina,
comme Traoré, on l'a vu sur un match.
On a vu une mi-temps, oui. Et donc, ils ne seront pas disponibles pour le trophée des champions le 8 janvier.
Voilà, le 8 janvier à 19h.
Puisqu'ils ont recommencé un peu à courir, mais ils n'ont pas repris l'entraînement collectif.
Oui, donc c'est pas encore ça.
Donc c'est sûr qu'ils ne joueront pas. Et donc, on va se retrouver en janvier sans Aubameyang et avec Gouiri pas apte. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu trouves une solution.
Il va falloir que notre jeunesse mûrisse plus vite que cela. Ouais.
Et c'est vrai qu'autant ils sont de qualité, que ce soit Vaz ou Mmadi aussi.
Oui, tout à fait. Mais...
Tadjidine Mmadi, le jeune international du 17, qu'on avait pour certaines découvertes à la Coupe du Monde du 17 au mois d'octobre. C'est un bon joueur. Mais ça manque de métier, ça manque de pratique, ça manque de... Quand tu joues à très haut niveau, on va jouer Liverpool et Bruges, c'est costaud. Voilà. Et même Monaco ou l'Union Saint-Gilloise, c'est du solide. C'est les équipes de Ligue des Champions. C'est pas des clubs de mal au tableau.
Et là, on arrive à mi-parcours, avant l'intersaison. C'est sûr que là, il va falloir mettre les bouchées doubles.
Oui.
Parce qu'on a un petit peu quelques points de retard qu'il va falloir récupérer. On ne peut pas récupérer ce qu'on a perdu gagné.
Mais le problème, c'est que tu aurais dû faire tourner en attaque pour que les mecs gardent du jus. En plus, tu as la chance que Greenwood et Pekchao s'est pas blessé. Pekchao, il est revenu de blessure, donc il n'a pas fait la préparation parce qu'il était blessé. Donc, il est revenu courant septembre.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'il a eu du mal à retrouver le rythme et tout. Et tu as de la chance qu'il ne se blesse pas et Aubameyang.
Mais en même temps, j'ai l'impression de voir un joueur piston quand je vois Pekchao. Je ne vois pas l'attaquant finalement que nous attendions.
On s'attendait à un dribbleur fou brésilien qui soit...
Au niveau du dribble, ce n'est pas encore ça, mais la vitesse est toujours présente.
Enfin, moi, j'avais quand même lu les journalistes belges qui disaient, et hollandais, parce qu'ils jouaient à Feyenoord en Hollande, qui disait que c'était un gros travailleur qui défendait beaucoup.
On ne peut pas dire le contraire.
Et c'est vrai qu'en Ligue des Champions, Tu es content de l'avoir parce que défensivement, il fait le taf.
Oh oui, oh oui.
Et c'est un c'est très bon joueur.
C'est vrai qu'après, il fatigue un petit peu quand il est en phase offensive, ben oui, après tout ce travail de remplacement.
Mais disons qu'on a tourné avec les trois, Greenwood, Peck Shaw, Aubameyang, pendant 2 mois. Et au bout d'un moment, ça fatigue.
Donc là, pour revenir à cette canne, justement, on va être amputé au niveau offensif et défensif.
De Naïef Aguerd, qui est probablement notre meilleur défenseur.
Oui.
C'est en tout cas celui qui est le plus global au sens, il défend, il relance bien et il est pas trop, un peu, il commande. Mm-hmm. Voilà. Ils sont absents, lui aussi, en espérant qu'il ne se blesse pas, parce qu'il a eu des pépins physiques début décembre, il y a 3 semaines. Uh-huh. Et donc, ça va être complexe.
Je ne sais pas, de Fulbalgie, probablement.
Oui, il faut espérer récupérer très vite Medina, qui nous a énormément manqué, pour la rotation.
Ben oui, tout simplement.
Medina, on rappelle, qui peut jouer arrière-gauche et qui peut jouer stopper gauche à 3 ou stopper à 2 dans une défense à 2.
Heureusement, il y a Palmieri qui s'intègre dans cette défense et qui peut
qui est une très bonne recrue.
Absolument.
Mais Medina manque dans la rotation Aguerd va manquer à la CAN et puis devant Ahmed Traoré.
Tu vois que derrière on est obligé justement de faire jouer des joueurs de couloir comme Mouillot par exemple dans l'axe, on l'a vu en Ligue des Champions.
Ou tu mets Timothy Weah arrière droit d'une défense à 4.
Chalier sur un autre côté qui n'est
quand
pas
Mouillot
le
a été blessé au début décembre, il s'était blessé en équipe nationale, tu as mis Weah arrière droit.
Ah, il fait une très polyvalent, je n'en doute pas. Mais
ce qui fait que le pauvre Timothy Weah, il a débuté le match. Ailier gauche, il a fini arrière droit. C'est quand même.
C'est fou.
C'est un peu folklorique. Mais bon.
Il est quand même tellement impliqué.
Oui, il a fait ses matchs. Il a fait ses matchs.
Mais ça démarche.
Le truc, c'est que les blessures et les absences ont fait qu'on a laissé de la gomme.
Oh, oui.
Et il nous a manqué pour la rotation. Et c'est vrai que Ahmed Traoré, alors lui, c'est moi je me rappelle de lui à Auxerre l'année dernière, c'était un joueur qui avait fait une super saison.
Bien entendu.
Et là, il a fait une mi-temps, il est blessé depuis, il ne revient pas. Et c'est, semble-t-il, celui qui reviendra le plus parce que Gouiri, on sait qu'il a été opéré de l'épaule, il doit reprendre en janvier. Medina, il devait reprendre mi-décembre, s'est reporté parce qu'il s'est refait mal
c'est
à sa cheville.
Ça.
Mais une cheville, c'est mal guéri, tu ne peux pas courir. C'est compliqué,
c'est
tu
ne
peux pas serrer les dents.
Mm-hmm.
Et donc, c'est des joueurs qui nous ont beaucoup manqué. Et moi, je pense que dans les points qu'on lâche dans certains matchs, ce n'est pas neutre. C'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir avoir... quand les équipes ont un effectif, on le voit avec PSG, mais que c'est des jeunes pas très expérimentés, malgré tout, tu lâches de la gomme.
Mettre en place une rotation que De Zerbi ne peut pas faire autrement, seulement attendre les moyens de cela, justement.
Oui, parce que tu es obligé
Quel joueur ?
Tu es obligé de faire jouer Aubameyang contre Monaco, alors qu'il a joué le mardi à Saint-Gilles, qu'il avait joué le vendredi d'avant à Lille. Le mec, il a quand même 36 ans passé. C'est un joueur qui a toujours joué, qui a une formidable carrière.
Un très mauvais souvenir, là aussi, sur ce match-là, face à Lille.
Oui. Et au moment donné, le mec, quand il est mort, je veux dire.
Il donne tout jusqu'au bout, tant que...
On l'a vu contre Monaco, en première mi-temps, il a été dangereux, il a multiplié les appels. En deuxième mi-temps, moi, je le sais, c'était devant moi, puisque je suis virage sud. Le mec, il fait des appels, mais l'autre, il le rattrape, quoi, je veux dire.
Compliqué.
Alors qu'Aubameyang en pleine bourre, le mec, il le rattrape quoi.
Il a pris la profondeur, après, tu arrives dans le match, ou l'en peux plus.
Oui, le mec, il est bouilli, parce qu'il est travailleur.
Il
une feignant.
Et on le voit faire les efforts, venir les chercher les ballons au milieu de terrain.
Presser, gêner la relance et tout. Et donc, on a ce problème... que peut-être le mercato, mais il faudrait recruter vite. Parce qu'après, si tu as fin janvier, normalement, Gouiri, Medina et Ahmed Traoré devraient être revenus. Et tu auras récupéré Aguerd et Aubameyang de la CAN.
J'espère qu'ils sont déjà sur le coup.
Oui, sûrement. Tu es sûrement sur le coup.
Est-ce que ça serait plutôt au niveau offensif qu'il faudrait recruter d'urgence ou bien peut-être ce poste miraculeux que nous attendons de numéro 10, qui est un peu galvaudé, mais le numéro 10 magique.
Moi, si tu me demandes, je vais te dire que Dans le schéma préférentiel de Zerbi 4-2-3-1,
ben ouais.
Ce qui manque, c'est le 10. Celui ben ouais, qui est avec
exactement.
Les Greenwood Pexao sur les ailes.
Je voulais t'amener à ça, justement.
Qui distribue les ballons et qui fait des passes. Parce qu'on l'a vu contre Monaco, c'est Vermeeren qui s'y est collé en première
oui.
mi-temps. Alors Vermeeren, il court beaucoup, il travaille énormément, il est très bon à la récupération.
Absolument.
Mais ce n'est pas un numéro 10.
Et il arrive à s'incruster au niveau voilà, offensif également, mais c'est pas un distributeur de ballons.
Voilà, à la mi-temps, il a fait reculer, il ouais. a fait sortir Kondogbia ah ouais. parce qu'il avait pris un carton, et il a
pour
fait rentrer O'Reilly pour jouer un 10. Mais
voilà,
O'Reilly non plus,
ouais.
c'est
pas
un 10,
mais...
c'est un relayeur.
Ouais, ouais.
Voilà, et ce sont des bons joueurs qui travaillent, en hein, plus, travaillent, ils se battent, ils sont combatifs, ils font le job. Mais
je dirais, entre voilà. guillemets, heureusement, Holberg, au petit milieu de terrain, qui,
voilà,
qui
y a
fait Holberg, énormément de bien.
Parce que le but de Greenwood, on dit oui.
Oui,
je...
oui, oui.
Ah, c'est vrai que la frappe est magnifique,
ah,
il la prend. Moi, c'est devant moi, il la prend magnifique.
Mais le travail d'Holberg
mais,
à l'origine.
Voilà, l'action Pechao, Holberg qui amène, tu débordes, tu fais le centre intérieur du pied qui arrive exactement où il faut, c'est millimétré.
C'est parfait.
Il arrive pour la frappe de Greenwood
ah,
sur
ouais.
le pied. Et la frappe, elle est en pleine lucarne, elle est imparable. Mais Højbjerg, il a sa part sur le but. Hein.
Oh que oui.
Et voilà. Et donc, mais à part que Højbjerg, c'est pareil. C'est un ratisseur, c'est un travailleur.
Et oui.
C'est un milieu, c'est le leader. C'est... Et il te fait... Il est revenu.
Il
parce
n'est pas
qu'il
tout jeune non plus. Puis il a donné avec son équipe nationale.
Oui, avec
pour
des matchs.
Les qualifications. Hein.
Leur, je rappelle qu'ils se sont retrouvés... Ouais. Ils jouaient la qualif à la Coupe du Monde. Ils étaient en arrêt de jeu. Et ils étaient qualifiés à la Coupe du Monde, ils prennent un but, ils ne sont plus qualifiés, ils sont en barrage.
Ah, ouais.
Ça, mentalement, ça doit faire mal.
Ça,
c'est le capitaine,
ça perturbe, ouais,
en plus qu'il a joué les deux fois, les 95 ou 100 minutes. Ouais. Il avait joué le match d'avant au Danemark, il a joué le match en Écosse, le match où ils ont été éliminés au dernier moment, dans les arrêts de jeu. Mais mentalement, ça doit faire mal.
Mais on voit toujours
voilà.
Cet homme, je dirais, prêt à soulever ses partenaires pour aller devant, droit au but, c'est le terme.
D'ailleurs, quand Balerdi n'est pas là, c'est lui qui est capitaine.
Ouais, c'est lui le capitaine,
Et
évidemment.
Puis, moi, ce que je vois, en fait, puis ce qui se dit un peu autour de la commanderie, c'est qu'il parle à l'arbitre tout le temps, il est tout le temps. Alors, il a un côté chiant, il gueule, il râle, il conteste, mais il est aussi très malin. Il a quand même 31 ans, il parle couramment français puisque sa mère est française, il est danois, mais sa mère est française.
C'est pas une luxe.
Et voilà, c'est une très bonne chose.
Ah, ouais.
Et quand il est en Coupe d'Europe, il parle couramment anglais. Il a joué
aussi,
8 ou 9 ans en Angleterre.
Non, c'est vrai qu'au niveau communication,
voilà.
c'est le joueur idoine.
Il est très malin, il est tout le temps là, il est là, il défend, il fait son job.
Il sait couper le rythme quand il est mauvais pour nous.
Oui, c'est un bon joueur d'expérience, mais il n'est pas flamboyant. Et c'est vrai qu'il te faudrait un attaquant de plus. Ne serait-ce que pour doubler Greenwood.
Parce que Mopé, c'est terminé.
Oui, Mopé, je pense qu'il va partir.
Je pense qu'il va partir pendant l'intersaison.
Oui, pendant le mercato, il va partir.
Enfin,
c'est mieux, on ne le fera pas. Il a atteint son plafond. Tu en as besoin en Ligue des Champions sur certains trucs. Il est un peu le plafond de verre, comme on dit.
Donc, un attaquant, un numéro 10,
entre
guillemets.
Et peut-être un milieu. Oui, un milieu, si tu enlèves le créateur, le 10, tiens, milieu, ça va.
C'est ça.
Si tu n'as pas de départ, tu tiens la route. Et défensivement, globalement, ça va. Quoi, voilà. Si tu as des départs, il faut compenser, mais tu n'es pas sûr. Il y a 2-3 joueurs qui aimeraient voir partir.
Medina, il va peut-être reprendre...
Oui, en espérant qu'il revienne.
Voilà.
Et c'est quand même un garçon qui est international argentin, qu'il a eu quelques sélections. C'est un bon joueur qui nous manque, à mon avis, énormément. Donc, par contre, la question, c'est un mec qui met le pied sur le ballon, qui distribue à droite, à gauche. Et tu le vois des fois quand tu rentres le jeune Bilal Nadir, qui est un bon joueur, qui est peut-être un petit plafond dans les gros matchs, parce que il a de la qualité, mais il est, à mon avis, un peu léger dans les duels, s'il va au combat.
C'est ça.
Il manque un peu de...
Oui, il n'a pas peur de rentrer,
oui,
mais c'est pas ce qu'on lui demande à la base.
Mais
on a besoin de lui pour de la justesse
technique.
Il manque
un peu, et en fait, moi, Bilal, il me rappelle un peu Harit, qui était un très bon joueur, qui est bon, mais qui est limité. C'est-à-dire, à un certain niveau, quand tu joues en Ligue des Champions, tu as joué Newcastle, tu vas jouer Liverpool. Il te faut des joueurs de très haut niveau.
Non, c'est vrai qu'ils rendent service et voilà. Évidemment qu'ils complètent un effectif et voilà.
Donc,
une équipe.
Donc au milieu, il te faudrait un créateur, un passeur.
Ouais. On en revient à ça.
Un gars qui, à 30 mètres, te fait la petite passe.
C'était la semaine parlée, nous parlions justement du fameux Argentin qu'on a perdu. Carboni, me semble-t-il. Ouais, c'est ça.
C'était fait les croisés dès le mois
la
fin septembre.
La pépite de l'Inter de Milan. Voilà. Et ça, c'était vraiment le disque auquel on croyait. Quoi.
Que voulait de Zerbi auquel on croyait.
Ce type de joueur.
Typiquement, le milieu argentin très technique, comme le Real à Mastantuono, comme il y avait Almada qui a joué à Lyon, qui est maintenant à l'Atlético Madrid. Un joueur qui a le sens de la passe. Quoi. Comme au Real, il y a Mastantuono, mais il y a Güler, le Turc aussi. C'est le joueur
qui sait donner un rythme au match et faire la passe qu'il faut quand il doit la faire.
Ou Brahim Diaz qui joue aussi
au
Real. Des joueurs comme ça. Et il te faudrait un mec comme ça qui puisse jouer ailier, qui travaille, mais qui sache faire la passe au dernier moment. Et sur les coups de pied arrêtés, c'est Greenwood qui tire et Emerson qui vient sur les corners.
Emerson, justement, fait énormément de travail, apporte énormément, sur un couloir.
Sur les coups de pied arrêtés et les corners, il a une très bonne pied gauche.
Au niveau offensif,
mais c'est un peu délicat de faire monter l'arrière-gauche qui tient les corners à droite. Hein, parce que s'il y a une contre, mec, il n'est pas là, forcément.
Là, tu es embêté.
Donc, il faut que tu décales quelqu'un d'autre. Enfin, et donc, c'est peut-être ce 10, ce milieu offensif très technique.
Alors, on peut noter, justement, Patrick, qu'on voit Greenwood revenir beaucoup sur les derniers matchs dans l'axe pour créer, entre guillemets, le jeu, quelque part.
Après, Greenwood, je pense moins.
Il fait beaucoup d'efforts.
Que c'est pas sa position. Non, il est plus utile excentré, où il a un bon dribble, où il a une belle qualité de passe. Et puis il a ce truc, c'est comme
sa position naturelle devant.
Il a les deux pieds, Greenwood. Il est ambidextre, comme on dit. Et il rentre et il frappe.
C'est ça, mais c'est pas s'il est gaucher ou droitier.
C'est un peu comme j'écoutais un débat à télé et tout. Il parlait de Cherki. Et d'ailleurs, il comparait Cherki et Greenwood. C'est les joueurs, ils ont le ballon, c'est pas ce qu'ils vont faire. C'est pas s'ils vont jouer pied droit, pied gauche, centré, dribblé. Alors que tu as les joueurs, tu les connais, ils ont un pied exclusif, tu sais qu'ils vont revenir
sur le pied. Comment ils vont se positionner en phase offensive.
Et je pense que Greenwood en 10, il a été essayé, De Zerbi l'a essayé.
Non, mais en fait, c'est lui-même naturellement qui essaie de compenser, qui se retrouve au
milieu
de
terrain.
Oui, qui
se retrouve au milieu, qui essaie de donner les ballons, qui des fois passe à gauche d'ailleurs, essaie de créer un peu de l'insécurité, mais ce qui est très bien. Mais
il compense à tous les niveaux.
Et quand tu as une équipe, tu as repéré Greenwood, il est souvent, on l'a vu contre Newcastle et on l'a vu, il est pris à 2 ou à 3.
Oui.
On l'avait vu à Lens aussi, les mecs le prennent à 3. L'arrière-gauche et le stopper-gauche et un milieu qui venait défendre. Et donc, c'est très difficile. Alors, s'ils viennent à 3 sur lui, ça veut dire que ça crée des brèches ailleurs pour un autre joueur.
Ouais, complètement.
Si tu as cet autre joueur capable de
faire l'abord, ce
de l'étincelle,
côté,
et c'est sûr que ce n'est ni Angel Gomez qui déçoit beaucoup, ni
c'est le moins que l'on puisse dire,
ni O'Reilly, ni Højbjerg, donc ce n'est pas du tout le profil, qui peuvent faire ça. Nadir, c'est un peu le profil, c'est la qualité.
Il a des aptitudes, mais c'est pas ça.
Mais il manque un peu. Peut-être lui aussi, il aurait fallu le prêter un an, mais en Ligue 1, dans un club de bas de tableau. J'ai vu que l'année dernière, Lorient s'est intéressé. Tu le prêtes un an, il fait une trentaine de matchs. Ça peut être un déclic, une progression pour le joueur. Il te met quelques buts, quelques passes. Ça peut aider. Là, il rentre en cours de jeu. Il est des fois titulaire.
Comme on a besoin de lui dans cet effectif, c'est compliqué de le prêter à ce moment-là.
Et c'est-à-dire tu peux le prêter si tu as quelqu'un pour le remplacer.
Ben ouais.
Ce qui n'était pas le cas cette année. Voilà. Mais bon, enfin, nous verrons bien le mercato. Il ne faut pas attendre beaucoup de choses. Il faut espérer 2-3 départs de joueurs pour des raisons économiques.
Ils ont un contrat, c'est le jeu des chaises musicales également.
Ils ne jouent pas, même si c'est des mecs qui ne posent aucun problème. Je parle de Blanco, de Lirola et de Mopé, qui ne posent pas de problème dans le vestiaire, qui sont bien aimés de tout le monde. Oui. Et qui... Mais
Et puis Blanco qui fait des prestations très bonnes à chaque fois qu'on fait appel à lui.
Qui est un joueur, un bon gardien moyen, mais qui a un très bon remplaçant de l'Ange et un titulaire roulé qui est au-dessus.
Oui, oui, qui là, qui fait un travail avec ce trinôme de gardien.
C'est un gardien qui devait partir cet été, malheureusement il s'est blessé. Et du coup, étant blessé, il n'est pas parti. Et il va mieux, maintenant il est rétabli et tout, et on va essayer de l'exfiltrer. Mais c'est heureusement que ces trois garçons qui ne posent pas de problème dans le vestiaire.
C'est exactement la chose.
Parce que sinon, ça pourrait être embêtant. Mais là, ce n'est pas le cas.
Ouais.
Mais on va essayer de les exfiltrer. Sinon, je ne vois pas trop de départ. Par contre, effectivement, un joueur offensif, plutôt un profil de 10. Ouais. Alors, ça peut être un garçon qui fait banquette dans un gros club, d'un gros championnat.
Par exemple.
Et que tu te fais prêter 6 mois pour relancer, quoi.
Aurons-nous une agréable surprise dans les prochaines semaines, les prochains jours, et nous l'espérons de tout cœur.
Il faut l'espérer parce que c'est un poste qui te manque. Mmh. Et moi, le truc, c'est pour ça que tu me demandais, c'est ma priorité. Un joueur qui sait casser le rythme, garder le ballon. Voilà. Parce qu'on a des contres très rapides, mais ça va vite. Des fois, il faut bloquer le ballon,
mais
faire
c'est ça,
circuler,
il ne faut pas aller plus vite que la musique et être justement dans le bon tempo. Et ça, ce n'est pas une chose aisée.
Et on l'a vu récemment, quand l'équipe a eu des difficultés, qu'elle prenait. On l'a vu à l'Union Saint-Gilloise, on l'a vu contre Monaco. On l'avait vu à Lens et tout, tu es en galère, il faut un mec qui met le pied sur le ballon, qui calme. Et ce joueur, tu l'as pas.
Ça nous fait défaut au milieu de terrain, ça c'est évident.
Bon. Enfin, nous verrons bien.
Les hostilités, ce ne sont pas des hostilités, mais nous allons sur un match prochain, là, avant de rattaquer, puisque là, il se repose un peu avant la Coupe de France. C'est dans pas longtemps.
La Coupe, c'est dimanche à
14h. C'est dimanche, c'est ça, à 14h, face à Bourg-en-Bresse. Donc, effectivement,
Alors, on ne dira pas de blagues. Aubagne les a battus en national.
Donc, j'espère que ça ne sera pas un terrain où l'OM subira des péripéties sur un terrain qui ne sera pas le Vélodrome. Ouais. Ça, c'est certain.
C'est sûr, oui, ça sera à Bourg-en-Bresse.
Voilà.
Donc, un terrain pas forcément commun. Et une équipe qui va se battre.
Qui va tout donner,
justement.
C'est sûr que
les mecs, c'est le match de l'année ou de leur vie. Quoi.
Ben voilà, avant de rattaquer la 17e journée, on en parlait tout à l'heure, le dimanche 4 janvier où l'OM recevra Nantes à 15h, horaire assez intéressant
pour les familles.
Pour
les familles, ça t'évite de finir à 23h passé et de devoir rentrer à minuit chez toi.
Voilà, pour le programme à suivre, plutôt alléchant maintenant.
Pour ceux qui bossent lundi matin, c'est une bonne chose.
Aussi.
Voilà.
Nantes, en espérant
qu'ils ont changé d'entraîneur, le nouvel entraîneur ne trouve pas la potion miracle, qu'il la trouve, mais après. Et qu'on leur marque quelques buts et qu'on les batte le 4 janvier.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de soucis dans les équipes dirigeantes de beaucoup de clubs et au niveau du banc de touche.
Voilà,
on ne peut pas rentrer dans ces détails-là.
On ne va pas parler de Nantes, mais voilà. C'est bien rigolé, quoi. Les mecs, ils ont viré comme Bouhari en disant « Trop défensif, je veux la nantaise, on veut un jeune entraîneur dynamique. »
On a toujours ce sentiment-là et cette réplique-là.
Le vieux comme Bouhari, il arrivait à les maintenir quand même.
Le jeu à la nantaise n'était pas galvaudé depuis plusieurs années.
Ça fait, voilà. Et en plus, tu vends, tu achètes pas. Tu as même vendu ton meilleur jeune et tout. Après, tu viens m'expliquer que le mec, il doit jouer la qualif en Ligue des Champions.
Ce qu'on appelle le show business, c'est d'abord de la gestion financière.
En étant flamboyant, le mec, il avait montré à Dunkerque qu'il était un bon entraîneur, mais là, il a échoué. En espérant que nous, on ne les relance pas, parce que des fois, on avait une spécialité à une époque de relancer les équipes en crise.
N'en parlons pas, évidemment, ça ne sera pas le cas.
Voilà, on va dire à nos auditeurs qu'on vous tiendra au courant. On fera en
sans
janvier,
faute.
Voilà. Et on vous souhaite, comme on dit à Marseille, un bon boudin. Bonne fête et un bon boudin. Et on vous dit, début janvier, on se retrouve.
Et nous resterons fidèles à vos côtés.
Au revoir.
Au revoir, merci.